This is the most important election in the history.
I accept this nomination for president of the United States of America.
Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Washington DC 24 heures après l'investiture de Joe Biden pour suivre l'actualité américaine et pour suivre l'élection présidentielle qui vient de trouver son épilogue. Il y avait et il y a encore plusieurs moyens. Le premier, c'est évidemment d'écouter la radio. C'est la priorité, bien sûr, mais il y a aussi les revues et les médias traditionnels, la télévision et les journaux. Et puis il y a les podcasts ou balados, comme disent les Québécois. J'anticipe les remarques. Et il y en a un en particulier qu'on a écouté avec beaucoup de plaisir depuis un peu plus d'un an qu'il existe. C'est Washington DC, le podcast original des correspondants des radios publiques francophones avec
Sonia Dridi, RTBF,
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
J'ai tenté un peu de copier la signature maison de Washington DC, mais il faut le prendre plutôt comme un hommage que comme un plagiat. Merci à vous de prendre le temps au milieu d'une actualité chargée d'être avec nous sur RFI. On va peut-être commencer par l'actualité immédiate et je vais vous demander ce que vous retenez de la journée d'hier. Le prochain épisode de Washington DC, le 33e, est sur le feu. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, Anne Corpet?
Ah ben, on va pas vous le dire quand même. C'est
beaucoup,
une surprise.
Beaucoup de café.
Beaucoup de café. Et puis bah on va faire quelque chose d'assez classique au lendemain de l'investiture. On est un peu fatigué, donc on va limiter les efforts créatifs.
Alors je le disais, ça fait un peu plus d'un an. En fait, vous êtes lancé en novembre 2019, un an avant l'élection présidentielle américaine. Qui a eu l'idée au départ? Comment c'est venu?
Écoutez, c'est parti d'une conversation avec mon collègue Raphaël Grand de la RTS. Pour vous raconter un peu les coulisses, on était à l'aéroport de Denver, je crois, entre deux déplacements. Vous savez, on se retrouve, on mange un burger ensemble dans un resto d'aéroport. Et puis on parle de podcast parce que c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup tous les deux au départ. Et tous les deux, on avait un peu des projets pour couvrir cette présidentielle. Mais on n'avait pas l'idée révolutionnaire, quoi. Et puis, en discutant autour, faut bien le dire, d'une ou deux bières...
Il y en avait qu'une.
On se dit, et si on unissait nos forces? On est plusieurs correspondants francophones ici à Washington. Et si on essayait de se réunir pour proposer un projet original, 5 visions différentes de l'Amérique et aussi 5 fois plus de capacité à raconter ce pays à travers nos reportages.
Et c'est
grand.
Ouais, et d'ailleurs, quand on est parti avec cette idée, effectivement, dans un aéroport, finalement, c'est là qu'on se croise le plus souvent en tant que correspondant parce qu'on est entre deux déplacements. Et puis on s'est dit, ouvrons ça à la francophonie avec les journalistes francophones à Washington. Et je me rappelle encore d'un coup de téléphone que j'ai donné à Raphaël Bouvier-Auclair, le Canadien du balado. On se connaissait pas, on s'était jamais croisé. Je l'appelle et je lui dis, écoute, on a un projet, on aimerait faire un... Alors je lui ai parlé de podcast, alors il a fallu switcher, parler du balado. Et tout de suite, il a été intéressé. Ensuite, Anne, qu'on connaît aussi à Washington, s'est greffée, Sonia Dridi. Puis ça a créé une espèce de petite équipe, de petite rédaction comme ça, qui essaie de prendre un peu de hauteur sur cette actualité un peu folle à Washington.
Ouais, vous connaissiez personne, Raphaël Bouvier-Auclair, de l'équipe?
C'est-à-dire qu'on croise des gens parfois sur le terrain quand il y a des grandes couvertures, mais je me souviens pas qu'on se soit parlé même avant ce balado-là. Donc évidemment, d'abord sur le plan professionnel, ça a été assez extraordinaire ce qu'on a réussi à accomplir ces derniers mois. C'est-à-dire trouver le temps, premièrement, je pense que c'est un défi pour tout le monde ici, de se rencontrer, de mettre sur pied chaque épisode, de trouver les sons. Et puis aussi... évidemment, un avantage sur le plan personnel de découvrir des collègues avec qui on peut échanger, parfois réfléchir. C'est toujours enrichissant aussi de pouvoir échanger nos visions. Évidemment, moi, je viens du Canada, je viens pas d'Europe. On n'a pas la même relation avec les États-Unis. On n'a pas la même vision. On n'a pas le même lien avec les États-Unis qui sont directement à côté de chez nous. Alors, c'est intéressant parfois d'avoir d'autres perspectives puis de pouvoir aussi partager les efforts comme ça arrive à l'occasion sur le terrain.
Oui, partir en mission ensemble aussi parce que c'est vrai qu'on a tous des agendas assez serrés. On a toujours envie de partir en reportage, mais en même temps des rendez-vous antennes à assurer. Moi, récemment, je suis partie avec Raphaël
En Floride.
Non, dans le Dakota du Nord, oui. Sur le Covid, et ensuite en Géorgie. Et on se partage un petit peu le boulot de préparation. Je dois dire que Raphaël avait bien avancé sur le Dakota du Nord, sur le Covid. Je me suis greffé.
Bien rattrapé sur la Géorgie, par contre.
Et voilà. Et moi, j'ai fait plutôt le boulot sur la Géorgie. Et ensemble, comme ça, bah, on mène nos forces en commun. Et bah, c'est évidemment un avantage pour chacun.
Et par ailleurs, vous savez, contrairement à nos collègues de la télévision qui se promènent souvent, qui se déplacent sur le terrain en équipe avec caméramans, parfois réalisateurs, puis journalistes, ben nous, on est souvent seuls et on doit à peu près tout faire, évidemment, conduire, c'est de se retrouver parfois dans des villes, dans des états, aller trouver les gens à qui on veut parler, tout ça. Donc, quand on peut mettre les forces en commun, évidemment, ça nous donne un avantage sur le terrain, justement.
Ouais, la solidarité des radios, c'est important, effectivement, en général, et que pas seulement aux États-Unis. À part le calendrier, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce une sortie de Donald Trump particulièrement marquante? Ça n'a pas manqué, évidemment, pendant son mandat, vous vous êtes dit, bon là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on...
Non, on a visé, en fait, un an avant la présidentielle. On a lancé ce podcast balado, sauf erreur de ma part, le 3 novembre 2019. Voilà, l'idée, c'était de raconter cette présidentielle avec nos cinq regards différents pendant un an. Et d'ailleurs, on va un peu au-delà parce que l'actualité est tellement forte qu'on se dit que il va sans doute falloir continuer un petit peu. Mais ça nous a permis de chroniquer cette élection qui était quand même assez dingue, je dois dire. On était allé quand même de surprise en surprise. Et le podcast, avec je crois 32 épisodes maintenant, on va enregistrer tout à l'heure le 33e, a été une espèce de chronique de cette élection vraiment pas comme les autres.
Sonia Dridi, on l'entend pas. J'aimerais bien qu'on l'entende quand même depuis le début de l'émission. Elle est en liaison téléphonique. Sonia, qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça, cette aventure? Vous êtes à la pige pour les RTBF, je crois, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et je travaille pour plusieurs médias, donc la télé, je fais de la télé, de la radio, de la presse écrite. Et du coup, j'avais toujours envie de travailler sur un podcast, hein, depuis que ils sont devenus de plus en plus populaires. Et je trouvais que c'était vraiment un moyen intéressant d'aller plus loin sur les sujets qu'on abordait. Donc, quand Raphaël m'a proposé cette idée, j'ai trouvé ça super. Alors au départ, j'étais aussi un peu inquiète en me disant, mais comment je vais trouver le temps? J'ai déjà pas beaucoup de temps entre les différents médias pour lesquels je travaille. Mais finalement, j'ai trouvé ça... en fait, on a tous réussi à trouver le temps parce que je pense qu'on a tous vraiment... On apprécie vraiment cette expérience. Et je trouve, j'ai couvert l'élection il y a 4 ans et souvent, on fait du reportage, on a toujours des sons, des témoignages, des histoires, des anecdotes qu'en fait, qu'on peut pas placer dans nos reportages. Et du coup, je trouve ça super parce qu'avec ce podcast, on peut aller plus loin, on peut partager un petit son, une anecdote qu'on n'a pas pu mettre dans un sujet. Et donc, vraiment, c'est je trouve ça extrêmement enrichissant. Puis encore une fois, la camaraderie, je trouve ça assez extraordinaire qu'on soit 5 journalistes. On sait que parfois, entre les différents journalistes, les correspondants étrangers, peut y avoir de la compétition. Alors là, je trouve que ça s'est super bien passé depuis le début. L'ont dit Anne, Raphaël, eh bien, il y a beaucoup d'entraide. On se pose parfois la question, alors est-ce que vous avez eu cette accréditation pour tel événement? Comment on fait? Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est une très chouette équipe et vraiment une expérience qui, je pense, nous a tous beaucoup apporté. Et aussi de voir le retour des auditeurs, ça, je trouve ça... j'ai été assez surprise par l'engouement que très vite il y a eu autour de ce podcast.
On va en parler. Raphaël Grand, vous voulez...
Oui, l'idée de base aussi, quand on imagine un podcast, c'est de se dire qu'il faut proposer quelque chose de différent de ce qu'on fait à la radio, parce qu'en tant que correspondant radio, on est très formaté aussi. Enfin, vous connaissez ça, RFI, il faut faire des papiers d'une minute, une analyse d'une minute trente, c'est très court, c'est très organisé, c'est très cadré. Et ça, le podcast, c'est différent. Et ce qu'on a rajouté aussi dans ce projet, c'est que, pour vous donner un petit peu des couleurs, des coulisses, c'est qu'on se déplace, on enregistre ça à l'extérieur, on enregistre ça dans un hôtel, dans un aéroport, on enregistre ça dans un état lorsqu'on suit un meeting politique. On est très mobile. En fait, c'est toujours Grégory Philips qui arrive avec sa valise. Il arrive comme ça tout le temps en retard, évidemment, mais avec sa valise qui tire derrière le plus vite possible. Et puis, on s'installe comme ça. En quelques minutes, on monte un petit studio. C'est du bricolage, hein. Il faut le dire. C'est artisanal. Mais ça amène aussi, ça amène quelque chose. Ça fait partie du concept, j'ai l'impression.
Anne Corpèche, je vous ai coupé tout à l'heure. Allez-y.
Non, mais ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, chacune de nos radios était demandeuse, hein, d'un podcast. Moi, je me souviens, Ma directrice de l'info m'avait appelé. Oui, Anne, ce serait bien si tu pouvais faire un podcast. Et moi, je me disais, mon Dieu, toute seule. J'avais du mal à imaginer, en fait, un produit, justement, comme le dit Raphaël, naturel, délié, comme ça. toute seule, parce que toute seule devant un micro, bah, on a du mal à avoir ce ton un peu de la conversation, etc. Et aussi, ça demande beaucoup de boulot, on l'a dit, et on a organisé une forme de rédaction en chef tournante, et ça, je pense que c'est important de le souligner. Il n'y a pas de leader dans notre équipe. À chaque épisode, c'est l'un d'entre nous qui prend la main, qui décide le thème, qui collecte les informations auprès de ses confrères et qui dit « Ah ouais, t'es allé où? T'as eu quoi? T'as quel son que t'as envie de placer sur ce sujet ?» qui prépare le conducteur et qui ensuite s'occupe de la post-production. Chacun, à son tour, on met notre patte sur l'épisode. Et je pense que ça aussi, ça apporte une grande richesse à ce podcast.
Est-ce que ce type de format vous permet, on vous l'avait un peu dit, Raphaël Grand, de faire des choses que vous ne pouvez pas ou que vous n'oseriez pas faire à la radio? D'abord, vous vous tutoyez à l'antenne, ce qui est rarissime, ça, Grégory Philips.
C'est un peu le format qui veut ça. Quand vous écoutez beaucoup de podcasts français et beaucoup évidemment de podcasts ici aux États-Unis, il y a une espèce de ton comme ça plus léger que ce qu'on peut faire sur nos antennes respectives aussi, ouais. De proximité. Donc oui, on se tutoie tous les cinq, ce qu'on ne fait jamais sur nos antennes traditionnelles. Oui, on se permet de raconter des coulisses de reportage, par exemple. Et on a beaucoup de retours là-dessus. Les gens apprécient de savoir comment on bosse, tout simplement, pour couvrir la présidence Trump, une élection présidentielle et bientôt la présidence Biden. Donc, on se permet aussi de raconter des coulisses. Tiens, j'étais en reportage à tel endroit, il m'est arrivé ça, voilà comment j'ai travaillé, avec la réaction des autres, parfois une ou deux petites blagues, parfois j'arrive à parler de Bruce Springsteen dans ce podcast,
j'allais le dire.
À peu près à tous les épisodes. Voilà, chacun apporte sa personnalité sur un ton beaucoup plus... de conversation, en fait. C'est une conversation sur les États-Unis.
C'est notre plaisir que vous puissiez parler du boss dans cette émission, Grégory Philips. Il y a même des choses un peu étranges sur vos reportages. Une fois, vous étiez en camping-car dans l'Ouest américain, Raphaël Grand, et ouais. Vous étiez quand même dans le podcast.
Ça, c'était un projet pour la RTS. Mais effectivement, et ça, c'est le grand problème au niveau de la planification. On arrive finalement rarement à être les cinq au même endroit à un instant T. Et ce qu'on fait, d'ailleurs, Sonia est avec nous par connexion. Par son téléphone.
Elle intervient quand elle veut d'ailleurs.
On essaye justement de rester là, même si on est en déplacement. Et je pense que ça amène aussi quelque chose. Ça nous fait aussi voyager à travers les États-Unis, puisqu'en tant que correspondant, on couvre finalement pas mal d'États à travers ces États-Unis. Et puis voilà, certaines fois c'est simplement 5 minutes depuis un camping-car, certaines fois c'est plus. Si ça marche pas, on le fait à distance et on tâche en tout cas d'être toujours là d'une manière ou d'une autre.
Sonia Dridi, sur cet aspect un petit peu moins formel, c'est quelque chose que vous appréciez ?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai, comme l'a dit Raphaël, on est souvent, que ce soit en télé ou en radio, on a des formats très courts, très limités. Donc là, vraiment, même le ton, on adopte un ton différent. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et puis aussi, encore une fois, ça permet vraiment de raconter d'autres histoires, les à côté, les gens qu'on rencontre en reportage, les anecdotes qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment super. Et je pense aussi... on avait tous un peu des modèles de podcasts en tête. Par exemple, ici aux États-Unis, on est beaucoup à apprécier le Daily du New York Times. Il y a aussi le podcast plus politique de NPR. Il y en a un tas. Et je trouve qu'on a finalement, en fait, même si on avait un peu des modèles en tête, réussi à créer quelque chose assez singulier. Et ça s'est fait un petit peu naturellement. Et au fur et à mesure, on a tous un petit peu fait un brainstorming et au fur et à mesure, on a, je pense, réussi à trouver un petit peu comment allier à la fois l'actualité, la news et puis les expériences plus personnelles ou les rencontres. Et c'est ça qui a été aussi intéressant, de voir en fait comment, quel ton allait prendre notre podcast et quelle forme.
Je vous confirme que c'est très agréable à écouter. Raphaël Bouvier-Auclair, vous voulez ajouter quelque chose?
Ouais, non seulement on raconte les coulisses de notre travail, comme le disait le fan de Bruce Springsteen à côté de moi, mais on tente parfois aussi de transporter les auditeurs dans les coulisses avec nous. Je me souviens, par exemple, on était la plupart d'entre nous en Iowa et on a assisté au caucus de l'Iowa. Et ça, c'est assez particulier de voir les gens se déplacer. La démocratie américaine, finalement, en action. Et on avait les micros ouverts et on a partager cette expérience-là dans le balado avec nos auditeurs. On les a aussi amenés à l'intérieur du Capitole pour un épisode. On s'est d'ailleurs perdu à plusieurs reprises dans les couloirs. C'est pas toujours évident quand on connaît pas bien l'édifice. Mais donc, on tente aussi d'aller au-delà de seulement partager les coulisses, mais de tenter d'offrir une expérience aux auditeurs, de leur faire découvrir la Capitale. Et puis, ça peut peut-être donner des idées aussi aux gens qui veulent venir visiter Washington. Ça peut leur donner une idée de quoi a l'air cette ville qui est remplie de surprises.
Justement, vos auditeurs, j'allais en parler, ils ont pu visiter Washington grâce à vous. Vous changez de lieu d'enregistrement à chaque fois. Pourquoi? Comment est-ce que vous le choisissez?
On trouve que ça amène une certaine touche en fait de se mettre ailleurs. Ça permet de découvrir effectivement Washington, d'amener les gens, comme disait Raphaël Bouvier-Euclair, dans les endroits de cette capitale qui a finalement... C'est vrai qu'au début, on se disait, mais est-ce qu'on va, après 30 épisodes, on aura visité tout Washington, on connaîtra finalement le Capitole, on se perdra plus dans le Capitole. mais non, il y a toujours des choses à raconter. Et en fait, cette actualité américaine est si riche que chaque fois, en réfléchissant un tout petit peu, on se dit, ah mais cet endroit-là va symboliser cette thématique de cet épisode. Et puis, pour tout vous dire, moi j'ai découvert aussi des endroits à Washington. Par exemple, Grégory est un grand fan des hot dogs de Ben's Chili Bowl sur la U Street.
Et on a fait deux épisodes, voilà, je crois.
Ouais. On a même été deux fois. Grégory aime particulièrement bien les hot dogs de Ben's Chili Bowls. Mais voilà, c'est un endroit que je connaissais pas. Grégory le connaît, le propose. Et puis au final, ça met une atmosphère, une ambiance dans ce podcast.
Et puis sur cet exemple-là, je crois que c'était un épisode consacré à la communauté afro-américaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le décor. Ça nous permet aussi d'apporter des infos et des analyses sur un dossier d'actualité ou des événements récents. Donc voilà, c'est comme ça qu'on cherche un peu ces lieux.
Est-ce que vous... Oui,
Et à propos des lieux et de la visite de la capitale, il faut quand même dire qu'on a une famille d'auditeurs des Français qui habitent en Floride qui sont venus à Washington et qui ont visité Washington en se rendant dans tous les lieux où on a enregistré le podcast. Ils nous ont fait ils nous ont offert des photos d'eux devant chaque lieu, et ça c'était vraiment très sympa de recevoir ce témoignage de fidélité.
Ouais, j'allais vous en parler. Ce format vous permet un contact différent avec les auditeurs, peut-être plus direct. Vous avez donc cet exemple de cette famille, des fans particulièrement fidèles, Grégory Phillips.
On a
fans de Springsteen peut-être.
Ouais, aussi. On a un compte Twitter qui s'appelle Washington DC que vous pouvez retrouver, sur lequel on essaye aussi d'offrir aux auditeurs des coulisses, des photos, des images, des anecdotes, des informations évidemment aussi. Et on est, Sonia le disait tout à l'heure, assez heureusement surpris du nombre de retours qu'on a de gens qui sont devenus un peu accros à ce podcast, qui l'attendent un vendredi sur deux ou parfois plus souvent. Et franchement, ça a été une très belle surprise de créer cette... petite communauté. On parle pas de millions de gens abonnés à notre compte Twitter, mais quand même il y a un peu de monde, et il y a une petite communauté assez passionnée d'Amérique, assez passionné de ce qui se passe dans ce pays, et qui nous suit, qui nous interpelle, qui nous pose des questions, qui nous propose des sujets. Voilà, il y a un échange qu'on a réussi à créer aussi sur les réseaux sociaux.
Raphaël Grand, vous avez été interpellé. Oui,
c'est vrai que... Ce que je trouve aussi incroyable, Sonia, tu voulais dire quelque chose?
Peut-être Sonia.
Non, je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai presque du mal à imaginer le podcast sans le compte Twitter. C'est vrai que ça apporte vraiment, ça complète vraiment ce podcast, parce que déjà on prévient les gens quand il y a le nouvel épisode posté, il y a des photos de personnes dont on parle dans notre podcast. Donc c'est vrai que ça a été, sur ce point-là, Twitter nous a vraiment aussi aidé à faire connaître le podcast et à créer du lien, un vrai lien avec les auditeurs.
Et puis ça amène aussi une richesse dans les échanges entre un auditeur canadien qui parle à un autre auditeur français avec un Twitter, un Twitto suisse. Enfin, ça a créé aussi ce podcast une sorte de fenêtre sur cette francophonie radiophonique avec des auditeurs qui sont disséminés finalement à travers le monde. Et via un podcast, on touche finalement chacun plus de monde dans cette francophonie que sur nos antennes respectives. Et je trouve ça assez magique quand quelqu'un qui est en Haïti parle avec un auditeur au Canada sur une thématique comme les États-Unis, qui a une thématique finalement commune sur laquelle on peut se retrouver.
Est-ce que il y a des adaptations à faire pour travailler les uns avec les autres? Par exemple, lorsqu'on écoute la radio au Canada, on se rend compte que dans les reportages, les sons sont parfois beaucoup plus courts que ce qu'on entend dans les reportages sur les radios françaises. Est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont différentes que vous avez découvert, Raphaël Bouvier-Auclair, par exemple?
Il y a surtout certains mots. On faisait référence à balado, mais il y en a quelques autres aussi qu'on utilise. n'utilisent pas de la même manière au Québec ou en France. Sur l'adaptation quant au format, il n'y a pas énormément de différence. C'est vrai que parfois, nous, on va utiliser des sons en anglais qui sont plus courts, les traduire nous-mêmes dans un reportage, mais dans le cadre du balado, on a trouvé un format où, finalement, on traduit un peu les sons qu'on présente. Alors, il n'y a pas énormément d'adaptation sur ce front-là. Par contre, parfois, ce qui est un peu plus complexe, c'est quand on travaille avec un réalisateur qui est au Canada ou un réalisateur qui est en Europe, parce que, évidemment, l'heure n'est pas la même. Il y a quand même 6 heures de décalage et ça fait en sorte qu'on doit adapter un peu le travail, l'heure à laquelle on doit produire le balado, selon s'il est réalisé. Plus souvent qu'autrement, il est réalisé en Europe, mais à l'occasion, surtout lorsqu'on produisait un rythme hebdomadaire, on devait réaliser au Canada et là, ça avait une influence sur l'heure à laquelle on devait enregistrer l'épisode.
Même toute la procédure de production de ce balado passe par différents continents avec de la réalisation en Suisse. Je salue d'ailleurs les réalisateurs de la RTS qui travaillent là-dessus, ceux de Radio-Canada. On a même, j'ai des collègues, si je peux juste les citer, Eric Guevara-Frey, Jordan Davis, qui font même des hors-séries, qui travaillent depuis Lausanne. En fait, tout ce produit passe par le Canada, la Suisse, la publication du côté de Paris sur les plateformes numériques. Enfin, il y a vraiment toutes les radios qui se mettent à travailler ensemble et ça crée un peu un produit international avec cette francophonie.
Oui, journalistiquement, c'est enrichissant, Grégory Phillips, de travailler avec ses confrères d'autres pays.
Oui, c'est passionnant. On a des regards assez différents. Mon confrère québécois est parfois un peu décalé, je trouve. Non, c'est une blague entre nous, mais moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'on pense de l'autre côté de la frontière. Ils sont quand même le premier voisin des Américains, des États-Unis. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment d'entendre quand Anne, qui évidemment a un regard beaucoup plus porté sur l'international, la diplomatie, avec beaucoup de retours, notamment d'auditeurs africains de RFI ou en Haïti. Alors, elle nous apporte ça. Cette expertise des affaires internationales. Donc voilà, chacun a un peu sa spécialité. Sonia Dridi est très très impliquée. Elle suit beaucoup les coulisses de la Maison Blanche, du Congrès. Elle a beaucoup de contacts et ça nous sert tous. Voilà, chacun amène un peu, certes sa personnalité parce qu'on joue un peu là-dessus, mais aussi ses connaissances et les spécificités du média pour lesquels on travaille. Tout ça mêlé fait que je trouve ce produit Washington DC est une offre assez unique dans ce monde médiatique et dans le monde de la francophonie.
Oui, Sonia Dridi, vous faites beaucoup de télévision.
Oui, je voulais ajouter un peu.
Ouais. Allez-y.
Allez-y.
Non, vous.
D'accord. Non, je voulais ajouter par rapport à ce que disait Grégory et on parlait aussi des endroits où on enregistrait le podcast. C'est vrai que un jour on a été enregistrer le podcast dans le bureau d'un sénateur proche d'Obama, un sénateur de Chicago, et ça, alors je dis pas le nom parce que il est assez facile à trouver, mais ça, son employé, sa staffeuse préférée, qu'on reste anonyme, et on a retrouvé cette staffeuse le jour de l'inauguration sur la tribune, et elle va avoir un poste à la Maison Blanche, et donc c'est vrai que c'était assez sympathique et une expérience assez rare de pouvoir aller enregistrer le podcast donc dans un de ses bureaux au Sénat. Et ensuite de retrouver cette staffeuse donc qui était l'assistante du sénateur dans la tribune de lors de l'inauguration. Donc c'est vrai qu'on a avec c'est l'enregistrement dans des endroits différents, ça nous pousse vraiment parfois à des rencontres assez intéressantes.
Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un épisode du podcast enregistré à la Maison Blanche?
Mais bien sûr, dans la West Wing, c'est prévu.
C'est le but.
Surtout qu'il y a beaucoup de francophones au sein de l'administration Biden. Donc on met, et ça c'est aussi quelque chose à souligner, il y a parfois des demandes qu'on fait conjointement. Bon,
Obama par exemple.
Obama.
Non vraiment, j'ai fait une demande d'interview pour Obama au nom du podcast.
Il a attendu la réponse encore. Hein.
Karine Jean-Pierre, Anthony Blinken sont des francophones et on peut jouer là-dessus aussi pour tenter d'obtenir, j'allais dire, des gros poissons de l'administration en disant, nous, si vous venez chez nous, on vous propose une couverture extrêmement large et vous vous adresserez à toute la francophonie. Bon, pour l'instant,
Bruce Springsteen est venu à Washington. Je soupçonne quand soir, même que Grégory absolument. Phillips était là derrière.
Ouais. Est-ce que vous avez un épisode préféré, un épisode qui vous a marqué, que vous avez envie de recommander sur les plateformes d'écoute aux auditeurs en particulier? Anne Corpé.
Ah là là, vous savez, moi j'ai l'impression que ça va tellement vite que j'ai ma mémoire vive qui s'efface au fur et à mesure. Cette présidence Trump, ça a été un tel rouleau compresseur que, par exemple, j'ai lu récemment un livre qui portait, qui revenait sur ces 4 ans, et je n'arrêtais pas de me dire, ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, oh, c'est dingue, ah mais oui, ce truc. Et donc, j'ai du mal, là, tout de suite, surtout après une courte nuit, hein, faut le dire, à cibler l'épisode clé. Tout ce que je peux dire, c'est que à chaque fois, se retrouver est un plaisir. À chaque fois, on est inquiet. Il faut le dire aussi. On se dit, oh là là, tu crois que cet épisode, ça va aller, ça va être bon. Et puis à chaque fois, bon bah, on s'en sort pas mal, hein, faut le dire.
Ouais, je vous le confirme, Raphaël Bouvier-Auclair.
Un épisode qui m'a marqué, c'est le deuxième qu'on a enregistré chez Ben's Chili Bowl, finalement, qui est un épisode qu'on a fait un peu à l'improviste après les événements de Minneapolis, la mort de George Floyd, et puis toutes les manifestations qui ont suivi un peu partout aux États-Unis, dont ici à Washington. On s'est parlé à ce moment-là, on devait pas faire un épisode cette semaine-là, et puis on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Il y a des événements majeurs qui sont en train de se dérouler aux États-Unis. Il y a un vrai débat sur les injustices raciales, et il faut en parler. Et c'est ce que nous a offert la flexibilité du balado, finalement. Bien sûr, on tente de présenter nos épisodes chaque 2 semaines, mais cette fois-là, on a dit, on y va cette semaine, même si on en a présenté un la semaine dernière. On a recontacté Ben's Chili Bowl, qui nous avait déjà accueillis, parce que c'est un lieu symbolique pour la communauté afro-américaine.
Il faut expliquer pourquoi c'est un lieu symbolique. En 1968, après la mort de Martin Luther King, il y avait eu des émeutes partout, et c'était un restaurant qui est resté ouvert à tout le monde, pendant tout le temps.
Oui. Policiers et émeutiers allaient manger là-bas. C'est à peu près le seul commerce qui était ouvert à l'époque. Et donc, on a décidé d'aller enregistrer cet épisode-là pour une deuxième fois. Ils nous ont ouvert leurs portes. Mais c'était bien parce qu'on a pu rapidement partager nos impressions du terrain. Raphaël Grand et moi, on s'était retrouvés en pleine manifestation, tout juste avant d'ailleurs que les policiers débarquent à Minneapolis. Et puis, on a pu partager ça aux auditeurs. Nos autres collègues étaient ici à Washington, avaient d'autres impressions du terrain. On a pu mettre tout ça en commun. Et nos auditeurs ont eu un produit rapidement qui leur a permis d'avoir une perspective. Et ça, c'est la beauté du balado, la flexibilité que ça nous offre.
Je vais faire le tour,
et,
Sonia.
Et j'aimerais ajouter que
l'épisode qui vous a marqué, oui.
Alors, je vais vous le dire dans une minute. Il y a aussi Martin Luther King qui allait à Ben's Chili Bowl. C'est ce que m'avait confié la propriétaire Virginia de ce restaurant. Et c'est aussi pour ça qu'il est très connu à Washington. Et moi, l'épisode qui m'a marqué, alors, c'est comme Diane, il y en a tellement et on a tendance à avec toute l'actu, à être un peu dépassé. Mais alors, dernièrement, c'était après l'élection présidentielle, après la victoire de Joe Biden. On s'est retrouvés pareil. On était tous, on avait très fatigués, on avait couvert cette élection, voilà, en dormant très peu. On s'est retrouvés dans la rue, non
Personne
loin de la Maison Blanche.
Personne n'a dormi pendant une semaine, oui.
Voilà, tout à fait, non loin de la Maison Blanche. Et en fait, c'était voilà, encore l'euphorie à Washington. Il y avait encore beaucoup de gens dans la rue qui venaient se balader aux abords de la Maison Blanche. Et personnellement, ça m'a aussi marqué parce que c'était parfois on enregistre le week-end à la dernière minute, et donc j'avais mon bébé de 10 mois que j'ai dû emmener participer au podcast parce que voilà, c'était un dimanche et que on a dû enregistrer au plus vite après l'élection. Donc c'était une ambiance assez intéressante.
On a vu les photos sur le compte Twitter, effectivement, du podcast Washington DC. Votre épisode préféré, Raphaël Grand?
Bon, il y en a plusieurs. Par exemple, celui qu'on a enregistré après le Super Tuesday, à la fin des primaires démocrates. On était, Grégory et moi, on était à San Francisco, en Californie. Les autres étaient à Washington. Et
puis
on
avait
trouvé, voilà,
magnifique.
Donc on n'avait pas dormi non plus énormément, mais le matin on se voit devant la baie. Les autres sont à Washington DC. Je crois que vous avez été accueillis dans le studio de Radio Canada,
ouais.
Et puis on a essayé de connecter tout ça. Enfin, c'était un petit peu compliqué aussi, mais et voilà, on a créé enregistrer un podcast depuis chaque côte des États-Unis, et finalement ça a très bien marché aussi.
Grégory Phillips,
peut-être un des derniers qu'on a enregistré après les événements du Capitole du 6 janvier. Pareil, on a dû travailler assez rapidement parce que l'événement était tellement fort qu'on s'est dit il faut tout de suite qu'on vous décrive, qu'on décrive à nos auditeurs ce qu'on a vécu de l'intérieur. Donc on a enregistré cet épisode. Et juste un mot, en riant un peu, on vous parle tous beaucoup de nos courtes nuits de sommeil. Voilà, on va pas se plaindre, on a un travail formidable, on a une chance incroyable de couvrir cette actualité. Si ça arrive un peu dans la conversation, conversation, c'est aussi parce qu'on travaille sur des fuseaux horaires différents. Certains travaillent pour la France, Anne travaille pour RFI qui est une radio mondiale, Raphaël travaille pour même fuseau horaire. Mais donc on passe aussi avec cette petite équipe de 5 correspondants francophones notre temps à jongler avec ces horaires. Attention, moi j'ai les journaux du matin en France, mais moi je suis sur RFI sur une édition Afrique par exemple, j'en sais rien. Raphaël est plutôt sur ses journaux du soir pour le Canada. Donc en fait, c'est on a tous depuis qu'on a créé Washington DC de plusieurs horloges dans la tête quoi.
Le soleil ne se couche jamais sur Washington DC.
Et d'ailleurs Raphaël, une fois on enregistrait à Cleveland le podcast et au milieu t'as dû sortir pour faire un direct pour ton antenne. Ça arrive aussi parfois que on doive jongler comme ça avec nos impératifs antennes respectifs.
Et pour vous dire à quel point chaque épisode est différent, par exemple au début de la pandémie, souvenez-vous, on a enregistré un épisode où on était tous confinés, chacun chez soi, on s'est parlé virtuellement sur une plateforme, je me souviens plus du nom, et chacun a enregistré sa piste chez lui, et ensuite on a tout mis ensemble pour respecter les mesures en place à ce moment-là. Donc encore une fois, on a dû s'adapter, s'ajuster, mais c'est aussi la beauté de l'expérience.
Il faut aussi ajouter les avions en retard, quelqu'un qui rentre de Géorgie, il y a une tempête de neige, un petit délai de 2 heures qu'il faut réintégrer dans le planning.
Enfin, c'est bloqué à Hawaï à cause du coronavirus. C'est juste.
Et moi, je devais assurer la rédaction en chef du dernier épisode, mais j'étais coincée à Paris en attendant l'autorisation du consulat américain.
Mais donc, on a remarqué quand même qu'au final, plus on est fatigué, plus meilleur on est désorganisé, meilleur c'est. C'est un peu la magie de la radio et là, on le retrouve dans le podcast aussi.
L'objet de ce podcast, de ce balado, Raphaël Bouvier-Auclair, je prends des précautions. J'apprécie. Évidemment, à chaque fois, voilà. C'était donc de faire vivre la campagne qui a été complètement folle, vous l'avez dit à plusieurs reprises pendant cette émission. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir, hein, et notamment, il y a 15 jours, cette attaque du Capitole. Est-ce que c'est le moment qui vous a le plus marqué ou est-ce qu'il y en a d'autres dans la campagne, hein. Je parle pas directement du podcast là, Anne Campé.
Ah, c'est évidemment le moment le plus inattendu, incroyable, stupéfiant. Enfin, les adjectifs manquent pour décrire le sentiment qui nous a tous saisis, parce que justement, comme Sonia le rappelait, on a enregistré déjà dans ce Capitole et on mesure bien à quel point ce lieu est sacré pour les Américains. C'est-à-dire que quand on se baladait avec la valise à roulettes à 5 dans les couloirs, la police du Capitole nous regardait avec un petit œil un peu de travers. C'est un lieu où les gens se promènent avec un respect infini, où tout est très réglementé, régenté. Et d'un seul coup, de le voir envahi comme ça par une horde de gens qui n'ont finalement aucun respect pour les lieux, hein. Ils fumaient des clopes, ils se filmaient, ils montaient sur les statues. Ça a été un choc énorme pour tout le monde et pour nous aussi. À part ça, au début de cette campagne, quand il y a le Covid qui est arrivé, qu'on a appris que les conventions allaient être annulées, on était un peu déçus quand on se disait oh là là, cette
vous
pandémie.
Vous étiez quasiment pour ça en fait.
Ouais, et on s'est dit cette pandémie, ça va tout foutre en l'air. On voulait vivre une vraie campagne électorale américaine. Bon, bah finalement, on n'a pas été déçus. Hein.
Raphaël Grand, épisode marquant pour vous.
Oui, alors je parlais du Super Tuesday, je peux aussi parler d'un autre épisode. Moi, ce qui amène beaucoup, je trouve, c'est d'aller enregistrer sur les lieux. Je pense par exemple à celui qu'on a enregistré devant la Cour suprême quand Ruth Bader Ginsburg est décédée, RBG. On est en train d'enregistrer un balado devant le cercueil, on la voyait, ouais, on voyait les gens, on est entouré par la foule. On est dans l'événement et on est en train d'expliquer cet événement en étant complètement immergé à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on retrouve, je trouve, dans ce balado qu'on n'a pas forcément toujours. Quand on fait de la radio, quand on est dans un studio avec un décalage quand même sur l'actualité, sur l'événement qui est en train de se dérouler. Et cette immersion totale, je pense qu'elle s'entend aussi parfois dans ce balado. Et elle se vit aussi, ça nous aide aussi, je trouve, à raconter ce qui se passe. Et ça mène clairement un plus. Hein.
Sonia Dridi, épisode marquant de cette année de campagne.
Alors, je parlais notamment donc de l'épisode devant la Maison Blanche après la victoire de Joe Biden, parce qu'encore une fois, comme le disait à l'instant Raphaël, on était devant la Maison Blanche et on voyait encore des gens arriver pour symboliquement se rendre devant la Maison Blanche et célébrer la victoire de Joe Biden. Et on voyait aussi beaucoup de familles, donc on était vraiment dans l'ambiance. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié les épisodes à Ben Chili Bowl, un endroit où je me rends rendez depuis mon arrivée à Washington DC, et c'est aussi assez amusant parce que c'est un endroit où quand on sort le soir à Washington DC, donc avant la pandémie, c'est un des endroits qui reste ouvert très tard, donc c'est un des endroits où on va aller prendre un hot dog à 1h du matin, et c'est vrai que du coup c'est un endroit que je connaissais bien, et c'est un endroit aussi où j'avais interviewé donc notamment la propriétaire, et ensuite d'y retourner dans le podcast avec grâce à Grégory, on avait été même dans la cuisine enregistrer un moment notre podcast. C'est vrai que ça nous donne en fait un autre regard sur des endroits parfois qu'on connaît bien, que ce soit le Congrès ou Ben Chili Bowl, et bien on a été dans les coulisses de ces endroits, et c'est assez fascinant.
Grégory Phillips, à quel moment de cette campagne vous vous êtes dit, oh, là ce qu'on est en train de vivre, c'est dingue?
Non mais tout le temps. Non mais tout le temps, à plusieurs reprises. Enfin, la mort de Floyd et les manifestations qu'on a vues à Washington, c'était quand même assez sidérant. Et puis l'émotion et les questions que ça a provoqué dans ce pays et partout dans le monde. Donc ça, on était aux premières loges. L'épidémie de coronavirus. On a quand même vécu une année où on a vu le président des États-Unis, Donald Trump, s'en aller en hélicoptère vers l'hôpital militaire qui est pas très loin d'ici, Walter Reed. À ce moment-là, on est correspondant aux États-Unis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il a 74 ans, est-ce qu'il y a un risque, je sais pas, que le président américain meure à l'hôpital? Enfin, donc on vit ça. La mort de RBG, de la magistrate de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, ça a été quelque chose aussi de très important ici. En fait, on est allé de surprise en surprise et d'une actualité qui devenait folle, quoi, vraiment par moment, comme Diane, quand on regarde dans le rétroviseur, on est tous là depuis au moins 4-5 ans à peu près. Quand vous regardez dans le rétroviseur de tout ce qui s'est passé pendant la présidence Trump, et en particulier cette dernière année, et en particulier ces derniers mois, le rythme a été totalement fou.
Raphaël Bouvier-Auclair, le souvenir pour vous de cette campagne, de ces dernières années?
Bah, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'événements, puis on en oublie, puis c'est vrai, imaginez à quel point c'est marquant quand on voit le président des États-Unis être hospitalisé en pleine campagne. Et justement, je pense que la pandémie de coronavirus a été au cœur de cette campagne-là, non seulement pour l'adaptation que ça a nécessité de notre part sur le terrain. Évidemment, il n'y avait pas de grand rassemblement. Les républicains, eux, étaient beaucoup plus à l'aise de se rassembler, souvent sans masque. Mais on a dû ajuster notre travail, aller à la recherche, par exemple, de partisans démocrates, etc. Et puis ça a marqué aussi les esprits. Moi, je me souviens, après un épisode, c'était avant la campagne, mais après un épisode au printemps, au mois d'avril, on termine l'épisode, je prends ma voiture, je vais à New York, mais on était en avril, en plein cœur de la pandémie, et les images que j'ai vues là-bas étaient absolument saisissantes et vont rester dans mon esprit pour le reste de ma vie. Je suis entré, je roulais trop vite dans le tunnel Lincoln. Habituellement, c'est toujours blindé de véhicules, c'est toujours bloqué. Alors, je suis entré en toute vitesse, il y avait personne dans les rues, un hôpital de fortune construit dans Central Park, au cœur de Manhattan, et puis des sirènes qu'on entend partout, alors qu'on n'entendait plus les klaxons de véhicules. C'était assez saisissant parce que New York, évidemment, a été la première grande ville très, très frappée aux États-Unis par cette pandémie, qui est encore aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de ce pays.
Anne Corpé.
Et ce qui est quand même... ce qui illustre cette idée de rouleau compresseur là de l'actualité américaine depuis un an, c'est que aucun d'entre nous n'a encore évoqué la procédure de destitution contre Donald Trump.
Alors qu'il y en a eu deux, hein,
c'est pas fini.
Il y a eu deux mises en accusation du président, hein, en moins de 12 mois, et ça, c'est inédit dans toute l'histoire du pays. On est tellement sans arrêt sous ce rouleau compresseur permanent de l'actualité qu'on se souvient même plus qu'on a vécu des choses absolument inédites et historiques. Et ce procès, le premier procès en destitution et la mise en accusation par la Chambre, ça a été aussi un moment incroyable, des heures d'audience, des gens qui se battent pour défendre le président, et on va revivre ça une nouvelle fois là dans les jours, dans les semaines qui viennent.
Sonia Dridi, vous vouliez intervenir, je vous ai entendu.
Oui, alors déjà, je m'excuse que j'ai mal compris votre question tout à l'heure. Donc pour le moment le plus marquant de la couverture de la campagne, bon, ça a été les émeutes au Capitole. Évidemment, je pense que c'est un moment que très peu de gens aux États-Unis auraient pu imaginer. Et puis, ça m'a assez marqué parce que depuis, je suis arrivée en 2015 aux États-Unis et j'ai vraiment vu les divisions en fait se creuser. Et là, c'était le summum finalement de la conséquence hein, de cette polarisation extrême de groupes d'extrême droite, de milices qui finalement se sont sentis encouragés sous la présidence de Donald Trump. Donc c'était vraiment très frappant, très triste. Je dois dire que ça m'a beaucoup attristé de voir ces images assez choquantes. Et puis comme le disait Anne, hein, c'est vraiment le temple de la démocratie américaine. Je me rappelle qu'une fois j'étais même j'ai porté un jean pour assister à une audition, je sais plus quelle audition au Sénat. J'étais dans la tribune presse. On m'avait demandé de sortir qu'il fallait pas porter de jean. Alors vous imaginez, là on est arrivé vraiment à un point inimaginable pour ceux qui visitent, qui vont dans le Congrès.
Si quelqu'un arrive avec un casque à cornes, effectivement, c'est un petit peu surprenant. Raphaël Grand.
Mais quand on fait la liste de ces événements qui se sont déroulés durant cette présidence Trump, durant ces 4 dernières années, alors c'est une longue liste d'événements incroyables, extraordinaires. D'ailleurs, les journalistes américains ont tendance à dire « Ne me parlez plus de sujets hors normes, incroyables, extraordinaires. Je suis blasé, on fait ça tous les jours à Washington. » C'est vrai qu'on doit gentiment commencer à réfléchir à quels mots on utilise dans nos sujets, parce que on peut chaque fois commencer par du jamais vu, une première, historique, hors normes. J'arrête d'écrire hors normes dans mes papiers. Mais c'était ça pendant 4 ans. C'était aussi une partie de notre quotidien, en fait.
Ouais. Cette campagne, bon, elle est terminée maintenant. Donald Trump est parti en Floride. Je suis obligé de vous poser la question parce que nous, les auditeurs de Washington DC, bah, on est accro maintenant. Donc, qu'est-ce que va devenir ce balado, Grégory Phillips?
Après cette émission, on va enregistrer l'épisode 33. Je pense qu'on va continuer encore un peu, au moins jusqu'à la fin du procès en destitution. Et après, on verra. Bon, il y a plusieurs avis au sein de notre petite équipe.
Qui évolue au gré des...
de cette actualité. Après, l'idée de départ, c'était quand même de raconter cette présidentielle. Voilà, elle est passée. Est-ce qu'on va poursuivre? Et puis, il y a des contingences personnelles. Si je regarde autour de la table, on est plusieurs à rentrer au Canada ou en Europe l'été prochain, si je me trompe pas. Donc, il faudra voir comment ce projet évolue sans mes amis autour de moi.
Vous avez envie de quoi, Grégory Phillips, vous? Question. Ah, je pose les vraies questions maintenant, c'est la fin de l'émission.
Non, mais est-ce qu'on est dans une audition au Sénat?
Non, mais un énorme plaisir à faire ce projet. Vraiment, des amitiés qui se sont créées avec mes 4 confrères. Et j'ai un peu le sentiment que, voilà, Trump est parti, une page se tourne, et peut-être qu'il faudrait aussi tourner la page de ce projet. Mais c'est mon sentiment personnel.
Alors, Raphaël Bouvier-Auclair.
J'ai une opinion qui évolue sur la question parce que effectivement, au fil de l'actualité, on se dit « Ah, mais il faudrait en faire un autre, puis il faudrait en faire un autre », comme nous le démontre le procès en destitution de Donald Trump, là, qui sera devant le Sénat bientôt. Évidemment, on veut présenter ça à nos auditeurs, on veut leur parler de ce qu'on entend là-dessus, de ce que pensent les Américains. Je pense le fait qu'on ait poursuivi cet épisode quand même assez longtemps et de manière intense après l'élection présidentielle, ça démontre qu'il y a un intérêt premièrement, mais qu'il y a aussi beaucoup de matière. Déjà, bon, on a eu l'élection qui a été contestée par Donald Trump, on a eu ces événements du Capitole, donc il y a toujours matière. Maintenant, on verra ce qui se produira.
Sonia Dridi, vous restez à l'issue de cette période. Vous continuez, vous?
Alors, ça me ferait quand même très bizarre de continuer sans mes collègues. Je pense que c'était une aventure qu'on a montée ensemble et en effet, je serais la seule à rester. Je trouve qu'il serait intéressant d'aller au-delà de cette élection parce que c'est vrai qu'à la base, on devait rester seulement couvrir hein, l'élection présidentielle et faire ce podcast pendant un an. Mais entre-temps, il y a cette communauté qui s'est créée. J'ai l'impression presque de laisser tomber les auditeurs si on arrête, qu'on couvre pas un peu le début de cette présidence Biden.
Oui, on va trouver ça dur, aussi, vous le confirme.
Voilà, mais je pense qu'on pourra aller jusqu'à l'été après le départ de mes collègues, j'ai l'impression que l'aventure s'arrêtera un peu et qu'on pourrait éventuellement trouver d'autres moyens de continuer d'autres podcasts, mais c'est vrai que pour moi Washington DC reste vraiment cette équipe avec cette actualité.
Anne Corpé, vous voulez continuer, vous?
Oui.
J'avais tellement envie que le prochain, vous l'enregistrez dans votre jardin.
Mais fallait pas le dire. Bon, faut dire que Washington est complètement barricadé et que trouver un endroit public qui ait de l'intérêt était un petit peu compliqué aujourd'hui. Moi, j'étais plutôt comme Grégory, avec le sentiment qu'il fallait s'arrêter après l'investiture. Bon, et comme Raphaël, finalement, je me dis, on arrête de prévoir, parce que le scénariste de cette histoire est complètement dingue, comme dirait Grégory.
Oui, mais il n'a plus Twitter.
Et le scénariste n'est pas que Donald Trump, je veux dire, le scénariste de l'histoire américaine, là, de cette année en cours, ne cesse de nous surprendre. Donc on va s'adapter. Est-ce qu'on est obligé finalement de décider maintenant? Non, la souplesse du produit, la souplesse du podcast, c'est aussi de se dire stop ou encore, on verra et puis on s'adapte. C'est ça qui est sympa aussi.
Raphaël Grand.
Où on est tous d'accord, c'est qu'on se dit qu'il faudrait quand même d'une certaine manière trouver une fin. Mais c'est quand la fin? Est-ce que la fin, c'est lorsque Donald Trump embarque dans Marine One et s'en va à Mar-a-Lago? Est-ce que c'est le début de Biden? En fait, il y a plusieurs façons, j'imagine, de terminer ce balado. Ça peut être effectivement avec Donald Trump. On se dit aussi que ça peut être lorsqu'on fera nos cartons cet été et qu'on partira, puisque le balado, c'est aussi très intimiste. C'est un petit peu quand même de notre histoire de correspondance qu'on fait très rarement à l'antenne sur nos radios. On vous explique un peu de notre vie, un peu des coulisses de notre travail, et puis ça pourrait aussi être une fin possible. C'est ouvert, je vous rassure, on sera très démocratique, il n'y aura pas de violence et on parlera autour du...
Ouais,
on recontera peut-être quelques fois, mais on trouvera une solution.
Est-ce que vous allez demander leur avis à vos auditeurs sur le compte Twitter de Washington DC? C'est un piège.
On devrait faire un sondage.
Grégory Phillips.
On a déjà fait un petit sondage. Bon, les gens aiment bien ce podcast. Donc
écrivez à Grégory Phillips.
Et si je vous dis par exemple, choisissez maintenant, peut-être que ça va se calmer, un rythme mensuel tout simplement.
Pourquoi pas, ouais, c'est une idée. Faut aussi voir qu'il y a 5 radios derrière, hein, encore une fois.
Ouais, j'allais vous le dire. Est-ce que vous avez un peu de pression d'en haut?
Non, mais il y a pas que nous qui décidons, évidemment. Ouais. Bon, il y a 5 radios qui, pendant plus d'un an, ont travaillé ensemble sur des aspects techniques, éditoriaux, parfois de rédaction en chef, etc. Donc, il faut aussi que les 5 radios soient d'accord de ce qu'elles veulent faire.
Et 5 radios, par ailleurs, il faut le souligner, qui ont accepté d'aller de l'avant avec un produit qui venait de la base. Hein, c'est pas un produit qui venait de nos patrons respectifs, c'est vraiment nous qui avons décidé de mettre sur pied, de faire grandir ce projet-là, puis comme ça, tranquillement, ça s'est rendu dans les salles de réunion, puis les salles de rédaction un peu partout en Europe, puis au Canada, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, qu'on a réussi assez rapidement à mettre en place un produit, alors qu'on sait que ça peut parfois prendre du temps au sein des différentes radios, créer un produit comme celui-là, qui vraiment, cette fois-ci, est venu de notre travail sur le terrain.
En tout cas, ça va rester un super souvenir, quoi qu'il arrive, Sonia Dridi.
Oui, c'est vraiment, je pense, c'est une aventure, hein, c'est vraiment ce podcast, c'est une aventure, et c'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle, et je crois que ça marquera à tous notre couverture de cette élection 2020, et je pense qu'on a tous du mal à l'imaginer, cette couverture d'élection, sans ce podcast qui nous a beaucoup apporté.
Anne Corpé?
Moi, je ressens tout simplement un peu de fierté, je dois dire, devant ce produit.
Voilà, il faut le dire.
J'ai quand même quelques années au compteur, on va dire, je suis la doyenne, hein, du podcast, et ben ça fait plaisir après de longues années
d'apprendre, de reportage,
de diverses fonctions au sein d'une rédaction, d'apprendre quelque chose de nouveau, de se saisir, alors que évidemment, je suis passée de la bande des ciseaux au numérique, mais là, c'est une nouvelle forme, c'est vraiment un produit nouveau, et c'est quand même très enthousiasmant d'avoir comme ça découvert un nouveau champ d'expression, en fait.
Merci à vous de nous avoir fait vivre cette campagne dans ce podcast qui doit continuer. Je lance un appel au nom des auditeurs de Washington DC. Merci Raphaël Grand, Raphaël Bouvier-Auclair, Grégory Phillips, Sonia Dridi et Anne Corpet d'avoir accepté l'invitation de RFI. Washington DC est disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast ou de balado et sur les sites de vos radios respectives, RFI, la RTBF, France Info, la RTS, Radio-Canada. Merci à Hélène Avril pour la réalisation de cette émission. Demain, retour à vos programmes habituels sur RFI, et notamment le débat du jour avec Philippe Le Caplin. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.